إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبحمد الله عز وجل نواصل بعون الله وتوفيقه دروسنا في رسالة أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد توقفنا في دروسنا الماضية في باب الاختلاف الوارد في التفسير المأثور وذكرنا أن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام ذكرنا أن الأول هو أن يكون هناك اتفاق في المعنى ولو اختلف في اللفظ طيب أن يكون الاختلاف في اللفظ فقط أما المعنى فواحد فحينئذ جميع المعاني مقصودة جميع المعاني مقصودة وكلها يمكن تفسير القرآن بها Donc on s'est arrêté la fois dernière lors de notre explication de la رسالة du noble Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى les fondements ou des fondements du tafsir sur le chapitre concernant la divergence qui existe dans le tafsir provenant des sahaba ou des tabi'in. Et vous rappelez, on avait vu que, alhamdulillah, que le tafsir du Al-Qur'an, donc, possède plusieurs sources. La première, bien sûr, c'est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala elle-même. Donc le Coran est expliqué par le Coran lui-même. La deuxième, la sunna. La sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on avait évoqué donc la parole des sahaba et des tabi'in. Et donc, concernant la parole des sahaba et des tabi'in, radiyallahu anhum wa rahimahum, il se peut qu'il y ait des divergences. Vous voyez ? Mais il y a trois types de divergences. La première, on a dit, une divergence au niveau de la formulation seulement, uniquement la formulation, au niveau de la forme, mais non du fond. Le fond, lui, reste le même. Le tafsir, dans le fond, reste le même, mais dans la forme, il se peut qu'il y ait des formulations différentes. Voyez ? Dans ce cas-là, bien sûr, tous les sens contenus dans les formulations mentionnés par Sahaba ou les Tabi'in sont inclus dans ces termes-là et dans le même sens. Donc il est possible d'expliquer le Coran par toutes ces appellations à la fois. وَنَعْثَانِ أَنْ يَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَتَكُونُ الْمَعَانِ غَيْرَ مُتَضَادَّةِ بِحَيْثُ يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني وتكون الآية باللفظ الواحد دالة على معان مختلفة، وهذا يسمونها اللفظ المشترك. Le deuxième type de divergence, une divergence dans le fond et la forme. Dans le fond et la forme. Mais toutes les différentes significations ou les différents tafsirs qui sont mentionnés par les Sahaba et les Tabi'in ne sont pas contradictoires les uns les autres. Ils ne s'opposent pas les uns aux autres. De sorte à ce que on peut faire, on peut expliquer la parole d'Allah tabarak wa ta'ala par tous ces tafsirs à la fois. Pourquoi? Malgré le fait qu'ils divergent au niveau du sens, certes, mais ils ne s'opposent pas et ne se contredisent pas. Eh bien, dans ce cas-là, on aura le droit d'expliquer le tafsir par toutes ces différentes significations, différents tafsirs à la fois. C'est ce qu'on appelle ici al-lafdhul mushtarak, la formulation associative. Na'am. ثم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى النوع الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ أي في الميتة ولا عاد من أكله وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال سفر المحرم وغير ذلك. Troisième type de divergence, une divergence également comme dans le deuxième type, au niveau du fond et de la forme. Mais ici, le verset ne peut pas signifier tous ces tafsirs à la fois. Pour quelle raison? Car cette fois-ci, ces différents tafsirs s'opposent les uns les autres et se contredisent les uns les autres. On ne peut pas les réunir et ne se complètent pas. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va expliquer le verset par le tafsir le plus correct et le plus juste, en se référant bien sûr au contexte du verset, et ainsi de suite. Par exemple, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset de la sourate An-Nahl. Donc la sourate l'abeille, An-Nahl, verset 115. Verset 115. Tayyib. Donc il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué, ou la bête qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et très bienveillant. Vous voyez? Donc on a les deux termes ici qui sont غير باغ, quiconque en mange tout en étant contraint, donc les sahaba, tabi'in, ont divergé sur le sens de ghayra ba'in. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ba'in, qui est traduit par outrancier, ولا عاد. نعم. Il dit le compagnon Ibn al-Abbas, radiallahu anhuma, il dit que Barin, par rapport à la chair de cette bête morte, donc qui n'a pas été sacrifiée de manière légiférée. C'est-à-dire que la personne ne doit pas manger de cette bête morte-là, car elle en a envie, ou alors qu'elle a la possibilité de manger autre chose. Taïeb. Donc bien sûr, il faut que la personne mange de cette bête-là sous une vraie contrainte réelle qui fait qu'elle n'a pas d'autre choix que de manger cette chose qui, à la base, est interdite. D'accord? Et non parce qu'elle en a envie, ou alors qu'elle peut trouver autre chose, taïeb, ou qu'elle préfère cela à autre chose. Naam. Wala adin, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas les limites de ses besoins. Donc elle mange que ce dont elle a besoin pour rester en vie, et pas plus. D'accord? Donc si elle a besoin de quelques bouchées pour rester en vie, elle n'a pas à manger plus que plus que ce dont elle a besoin. Voyez? D'autres, parmi les exégètes, parmi les tabi'in et les sahaba, disent que ghayra barin, c'est-à-dire à condition que il ne soit pas sorti contre le dirigeant. Voyez? Quelqu'un qui sortirait contre le dirigeant et qui serait contraint de manger une bête morte, voyez, eh bien, il n'aura pas le droit de la manger. Pourquoi? Parce que lui, il est sorti contre le dirigeant. Hein? Voilà adin, c'est-à-dire, et qu'il ne soit pas désobéissant dans ce voyage. Donc, quelqu'un qui fait un voyage qui est haram et qui se trouve dans une situation où il va mourir de faim, il n'a pas le droit de manger parce que son voyage était à la base un voyage illicite. Donc on a ici deux tafsirs. On a celui d'Ibn Abbas et on a le deuxième. Il dit le cheikh, le premier, celui d'Ibn Abbas, bien sûr, est celui qui est correct et juste. Car il n'y a aucune preuve dans les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala sur le deuxième avis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'objectif de la licéité de cette chose-là qui est à la base illicite, eh bien, c'est le fait de repousser une contrainte, une nécessité absolue, qui est le fait d'éviter de mourir de faim ou de soif, par exemple. D'accord? Et cette nécessité-là, elle existe et elle survient même lorsque la personne yani, sort contre le gouverneur, ce qui est bien sûr un acte répréhensible, condamnable, blâmable, interdit, ou que la personne ait fait un voyage qui est un voyage dans un objectif yani, qui est illicite, et autre que cela. Il dit le cheikh, la contrainte, lorsqu'elle survient, elle existe, et donc la permission existera également, que le voyage soit illicite ou pas, que la personne soit sortie contre le gouverneur ou pas. طيب نعم وهكذا ثم قال مثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Autre exemple de la divergence de tafsir dans le fond et la forme. d'une divergence par laquelle on ne pourra garder tous les avis, mais au contraire, on va devoir sélectionner l'avis le plus juste. Donc, le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala de la sourate Al-Baqarah, verset 237, de le sens rapproché, Allah est dit: Et si vous les répudiez avant de les avoir touchés, c'est-à-dire avant d'avoir eu des rapports avec elles, et que vous aviez au préalable fixé yani, leur dot, taïeb, eh bien, la moitié de ce que vous avez fixé leur revient. Yani, revient à la femme. La moitié de la dot, taïeb, donc si vous répudiez vos femmes avant d'avoir eu des rapports avec elles, vous devez leur donner la moitié de la dot que vous aviez fixée au préalable. D'accord? Sauf illa an ya'foun. Sauf si elles acceptent de ne pas le prendre. Donc, sauf si elles disent, nous ne voulons rien. Il peut garder la moitié de sa dot. Taïeb. Ou que celui dont le contrat de mariage est entre ses mains, lui aussi abandonne son haq, son droit. Donc ils ont divergé, sahaba, sur qui est cette personne-là dont Allah y parle, lorsqu'il dit celui dont le contrat de mariage est entre ses mains, de qui on parle. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit, c'est le mari. C'est le mari. Taïeb, c'est-à-dire l'homme qui s'est marié avec cette femme et qui donc l'a répudiée avant d'avoir eu des relations avec elle, conjugales. Eh bien, lui, s'il le désire, il peut tout laisser à la femme. Il peut tout donner à la femme et ne rien garder. D'accord? Il peut donner toute la dot qu'il avait promis à la femme, même s'il ne l'a pas, même s'il n'a pas, ils n'ont pas consommé, yani, le mariage. Mais Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit autre chose. Il dit non, cette personne, c'est le tuteur de l'épouse. C'est le tuteur. Donc le tuteur, lui, il aura le droit de, également, de dire non, c'est bon, il peut garder toute sa dot. Al-Muhim, l'avis le plus correct, c'est celui de Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire c'est le mari. Donc soit la femme, dans le verset on a, soit la femme elle accepte de ne rien prendre et de tout laisser au mari, ou soit c'est le mari qui accepte de tout donner à la femme et de ne rien garder. Pourquoi cet avis-là est plus fort? Parce qu'il dit le shir qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui corrobore cet avis-là. طيب إذا هذا هو النوع الثالث المشترك الذي تضادت معانيه بحيث لا يمكن حمل اللفظ المشترك على جميع المعاني ومن ثم نحتاج إلى معرفة المعنى المراد. Donc en résumé, le troisième type c'est quoi? C'est encore une fois des tafsirs qui s'oppose ou dans les sens s'oppose. Jaïd, tafsir dans les sens s'oppose. De sorte à ce que on ne peut pas expliquer le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala par tous ces différents tafsirs. Jaïd. Naam. Donc, comment on fait? Eh bien, on aura besoin, comme on a dit, de connaître le sens véritable voulu dans le verset par Allah subhanahu wa ta'ala, et on va devoir céder des indices que nous avons dans nos mains, tels que le contexte du hadith, les contextes, pardon, du verset, ou les hadiths, et ainsi de suite. Non. Jade. فننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وعلى هذا فالتفسير يسمى ترجمة. ولهذا إذا كلمك إنسان بكلام لا تعرف معناه تقول له: ترجم لي هذا، وإن كان بلغتك تقول: ترجمه، بارك الله فيك، أي بينه. فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد. Donc on passe au chapitre suivant intitulé La traduction du Coran. At-tarjama. La traduction du Coran. Donc là, j'ai traduit ce mot vraiment littéralement, d'accord? Mais on verra que at-tarjama dans la langue arabe, c'est plus vaste que ça. Donc at-tarjama dans la langue arabe, c'est un mot qui va servir à définir, yani, les définitions des mots, les définitions d'une parole, les définitions de quelque chose. Donc, on va se servir de cette tarjama, de cette traduction, entre guillemets, traduction, pour clarifier, pour exposer la définition ou les définitions des choses. D'accord? Donc, il dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, donc ici, dans la langue arabe, yani linguistiquement, le tafsir, c'est un tarjama. Le tafsir, c'est un tarjama, yani linguistiquement, c'est un tarjama, c'est une traduction. C'est pour ça que, il dit le Cheikh, quand quelqu'un te parle, et toi, tu ne comprends pas ce qu'il te dit, tu lui dis: traduis-moi ce que tu viens de dire. Traduis-moi. Même s'il parle avec la langue avec laquelle toi aussi tu parles, avec ta langue à toi, mais yani, il a eu un discours incompréhensible. Eh bien, tu lui diras, par exemple: traduis-moi ça, s'il te plaît. Traduction, hein, barakallahu fik, c'est-à-dire, explique-moi, traduis-moi, clarifie-moi, expose-moi ce que tu veux me dire. D'accord? Donc, on voit donc dans la langue arabe, la tarjama et le tafsir sont deux mots différents, mais qui ont le même sens en vérité. Tafsir a le même sens que la tarjama dans la langue arabe. Voilà. ثم قال وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها puis dit le cheikh maintenant on va sortir de la langue arabe et on va entrer dans le vocabulaire technique, religieux. La tarjama sera dans ce domaine la formulation de la parole dans une autre langue. La formulation, l'expression de la parole dans une langue différente. D'accord? Donc lorsque l'on va parler de tarjama pour le Coran, eh bien, cela exprimera cela. Cela indiquera donc l'expression, la formulation des sens du Coran dans une langue différente, autre que l'arabe. Taïm, c'est ça là, le sens. Donc, tarjamatul Coran, la tarjama du Coran, la traduction du Coran, ce sera la formulation de ces sens dans une autre langue. Mais, écoutez bien, c'est important, il y a deux types de tarjama. D'accord? On reste dans le vocabulaire
religieux là, il y a deux types de tarjama. Le premier, une tarjama qui est harfiya. Tarjamatun harfiyatun. Une tarjama qui est littérale et yani lettre par lettre. Harfiya, lettre par lettre. De sorte à ce que on va traduire chaque mot à la même place et en remplaçant juste le mot en arabe par son équivalent, mais dans une langue différente comme le français ou l'anglais, par exemple. D'accord? أما النوع الثاني فترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. Deuxième type de tarjama, une tarjama que l'on appelle ma'nawiya. Une tarjama ma'nawiya. Une tarjama au niveau des significations et des sens. Et non une tarjama littérale ou littérale comme dans le premier, mais une tarjama, une traduction au niveau des sens, qu'on appelle également une tarjama tafsiriya, explicative. Une tarjama tafsiriya. Tayeb. Et cette tarjama, elle va s'effectuer en exprimant le sens de la parole, mais dans une autre langue. Sans yani se soucier ni des différents éléments ou différents mots ou la quantité de mots se trouvant dans le verset, sans se soucier non plus de l'ordre des mots dans le verset. J'espère que c'est clair, inshallah ta'ala. Qala shaykh, mithal dhalik, qawluhu ta'ala, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan, la'allakum ta'qilun. فترجم الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. نعم. Exemple pour que vous compreniez bien, inshallah. La parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Az-Zukhruf, verset 3. Dans le sens rapproché, Allah dit: certes, nous en avons fait un Coran en langue arabe, ainsi raisonnerez-vous. Tayyib. Donc, at-tarjama, la traduction qu'on appelle al-harfiya, lettre par lettre ou littérale, c'est le fait de traduire donc chaque mot, mot à mot. Donc, on va commencer par traduire inna, on donne son équivalent en français par exemple, puis on va donner l'équivalent de ja'alnahu en français, puis l'équivalent de Qur'anan en français, puis l'équivalent de Arabiyan en français, et ainsi de suite. Voyez, quant à la traduction au niveau des sens, la traduction explicative, comme on l'a dit tout à l'heure, tafsiriya ou ma'nawiya, eh bien, c'est le fait de traduire le sens du verset entier, mais indépendamment du sens de chaque mot ou indépendamment de l'ordre des mots qui sont présents dans le verset. Voyez? Et donc, cette tarjama qu'on appelle explicative ou ma'nawiya au niveau des sens, en vérité, elle est proche du tafsir, du terme tafsir de manière générale. Hein, lorsqu'on va faire un tafsir qui est ijmali, un tafsir qui n'est pas détaillé, mais un tafsir yani qui est général, eh bien, en vérité, c'est une forme de tarjama, car on va traduire dans une autre langue, yani, le sens des mots ou le sens contenu dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans forcément se soucier du nombre de mots dans le verset ou sans forcément se soucier de l'ordre des mots du verset. Even, الترجمة تنقسم إلى قسمين. إلى قسمين: حرفية ومعنوية. الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزائه، فيقال مثلا جاء أي كذا، فعبر عن جاء باللغة الإنجليزية مثلا جاء أي to come أو he came. طيب، فهذه ترجمة حرفية، أو باللغة الفرنسية جاء أي venir أو il est venu. طيب، مثلا العلم نافع، بالفرنسية العلم نافع، la science est profitable، وبالإنجليزية the science profitable أو useful، وهكذا. على كل حال، الترجمة الحرفية تكتب يعني كلمة بعدها معناها في اللغة الأخرى، هذه ترجمة حرفية يراعى فيها ترتيب. نعم، donc pour résumer. Par conséquent, la tarjama se divise en deux. La tarjama au niveau de la terminologie religieuse. On a une tarjama qui est harfiya, lettrale ou littérale, une tarjama qui est ma'nawiya, au niveau des sens ou explicative. Donc, al-harfiya, c'est le fait de citer la traduction de chaque lettre et de chaque mot en donnant son équivalent dans la langue Yani, voulu. Tu dis par exemple, si Allah dit Ja'a, hein, Ja'a, tu vas dire Ja'a, ça veut dire ceci et cela. Tu vas donner la traduction de Ja'a en anglais par exemple, tu diras Ja'a to come, pardon. Ou Ja'a, he came, hein, il est venu. Ou en français, venir, il est venu. Tayeb? Autre exemple, al-ilmu nafi'un, la science est bénéfique en français. Tu vas dire al-ilmu, la science, nafi'un, profitable. Ou en anglais, al-ilmu, the science, nafi'un, useful ou profitable. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, la tarjama, yani littérale, eh bien, c'est le fait d'écrire le mot en arabe et à côté, le mot. Le même mot, mais l'équivalent en français ou en anglais ou autre. D'accord? Donc, encore une fois, la traduction harfiya, on va respecter de manière parfaite yani, l'ordre des mots et tous les mots qui sont contenus dans le verset. Là, on va traduire chaque mot, chaque lettre. Amma at-tarjamatul ma'nawiyya an tafhama ma'nan thumma tu'abbira anhu باللغة الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها. الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين، ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب إن شاء الله. Quant à la tarjama explicative, le ma'nawiya, eh bien, lorsque toi tu vas effectuer et faire ce genre de tarjama, tu vas devoir d'abord juste comprendre le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une fois que le sens il est compris, eh bien, tu vas le formuler dans une deuxième langue, dans une autre langue, indépendamment de l'ordre des mots ou indépendamment de l'explication de tous les mots qu'il y aurait dans le verset. Voyez? Donc on a vu maintenant la différence entre le tarjama, la traduction littérale, et la traduction explicative tafsiriya ma'nawiya, comme vous voulez. Voyez? Maintenant que on a su ce qu'est la différence entre les deux traductions, quel est le jugement de la traduction du Coran? Est-ce qu'il est permis de traduire le Coran d'une traduction littérale ou d'une traduction explicative? Qu'est-ce qui est permis de faire et ne pas faire? Donc ici, on a la réponse. Elle est donnée par le Cheikh Al-Uthaymeen, رحمه الله قال حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي ألف وجود مفردات في اللغة المرتجمة أو في اللغة المرتجم إليها بإزاء حروف اللغة المرتجم منها. Donc il dit le Cheikh, la réponse à la question, le jugement de la traduction du Coran. Donc la traduction d'abord, littérale, par rapport au noble Coran, il dit le Cheikh, elle est impossible, et cela est l'avis de beaucoup de savants. Elle est impossible. Pour quelle raison? Parce que pour que cette tarjama harfiya littérale soit possible, il faut plusieurs conditions. Conditions qu'il est impossible de réunir pour traduire littéralement le Coran. Et parmi ces conditions, la première, la présence de tous les vocabulaires dans la langue dans laquelle on va traduire le Coran. De tous les vocabulaires qui existent dans la langue arabe, est-ce qu'on a le même vocabulaire dans l'autre langue? Non. Cela n'existe pas. Vous voyez? Que ce soit au niveau des lettres, rien qu'au niveau des lettres de l'alphabet, ou au niveau des vocabulaires, et ainsi de suite. Ben, wujudu adawatin للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. Deuxième condition, la présence de tous les outils compris dans la langue arabe, outils que l'on ne peut retrouver de manière exhaustive et complète dans une autre langue, que ce soit des outils identiques ou similaires ou qui s'en rapprochent, taïeb, hein, comme les outils d'annexion, adawat al-atf, adawat al-nasb, les outils de nasb, les outils de al-jar, les outils de al-shart, tout ça, ce sont des choses qui sont certaines. Parmi elles, spécifiques à la langue arabe, qui n'existaient pas chez aucune autre langue. Vous voyez? Naam. الشرط الثالث تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. طيب. Et troisième condition, l'impossibilité de reproduire le sens des mots contenues dans les versets coraniques dans la langue arabe. On ne peut pas reproduire le même ordre des mots en arabe dans une autre langue. Que ce soit au niveau de la construction des phrases, de la formation de ces versets, de l'apparence ou des adjonctions que l'on retrouve dans la langue arabe. Certains savants disent, malgré ça, que la traduction littérale, il est possible de la reproduire pour certains versets, pas pour d'autres. Donc il y a des versets que tu peux le faire, taïeb, mais pas d'autres versets. Ça dépend des versets. Mais malgré ça, ils disent même si cela est possible pour certains versets, eh bien cela est interdit. Cela est interdit. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de reproduire le même sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à sa parole de manière absolue et de manière parfaite. Premièrement. Et deuxièmement, il n'est pas possible que cela ait les mêmes répercussions sur les cœurs et sur les personnes que la parole dans la langue arabe claire. Et encore, et dernièrement, yani, dernièrement, on n'a pas besoin en plus de effectuer ce genre de traduction-là littérale, mot à mot, lettre par lettre. Pourquoi? Parce que on peut très bien s'en passer en faisant uniquement une tarjama qui est ma'nawiya, qui est explicative, qui est tafsiriya. Taïeb, au niveau des sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à traduire les paroles d'Allah mot à mot. D'accord? Donc, pour toutes les conditions que l'on a citées, qui ne sont pas présentes, qui ne peuvent être présentes, et aussi parce que nous n'avons pas besoin de cela, et que cela engendrerait forcément des défaillances et des déficiences dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à sa parole. Tabarak wa ta'ala. Naam. Fa'ala hadha, fa'tarjamatu al-harfiyya in umkinat hissan fi ba'd al-kalimat fahiya mamnu'atun shar'an. Allahumma illa an yutarjama kalimatan aw kalimatun khassa بلغة أو بلغة من يخاطبه بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كلها فلا بأس فلا بأس وأما ترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. Donc, en conclusion, nous disons que la traduction littérale, même si elle est possible, peut-être pour certains versets de manière concrètement, pour certains mots, eh bien, religieusement, il dit les shayr, c'est interdit. Religieusement, c'est interdit. Exception faite, même pour les mots, exception faite, taïeb, le fait juste de traduire certains mots, il y en a un mot, par exemple, spécifique du verset, ou quelques mots, dans la langue de la personne avec qui tu parles, et pour qui tu vas expliquer ces mots-là, pour lui faire comprendre la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc tu vas lui dire, comme on a vu tout à l'heure, ja'a, ça veut dire venir. Hein? Ja'a, venir, par exemple. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est permis, afin de faire comprendre à la personne. Mais sans traduire, comme on a dit, de manière littérale, lettre par lettre, mot par mot, en respectant l'ordre des mots ou la structure de la phrase, là. Vous voyez? Ça, non. Concernant la tarjama, la traduction explicative, le ma'nawiya pour le Coran, c'est permis. À la base, c'est permis, alhamdulillah, et il n'y a aucune interdiction ou prohibition à ce niveau-là. Il se peut même que cela soit obligatoire. Obligatoire, car il se peut que ce soit un moyen, un procédé pour propager le Coran et l'islam pour ceux qui ne parlent pas et ne comprennent pas la langue arabe. Ça y est? Et vu que la transmission du Coran et de l'islam est quelque chose qui est obligatoire, eh bien, le fait de traduire certains mots, ou de traduire plutôt d'une traduction explicative, devient lui aussi obligatoire. Car comme ils disent les ulama, hein, la règle que certains connaissent bien, la chose par laquelle l'obligation ne peut être effectuée devient elle aussi obligatoire. Hein? Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. La chose par laquelle la chose ne peut être effectuée que par elle devient elle aussi obligatoire. C'est-à-dire que le moyen devient obligatoire car l'objectif ne peut être concrétisé qu'avec ce moyen-là, qu'à travers ce moyen-là. D'accord? Donc, vu que on ne peut transmettre l'islam ou la parole d'Allah tabarak wa ta'ala à ceux qui ne comprennent pas l'arabe, excepté si on traduit certains mots, etc., eh bien, cette traduction-là, qui est explicative, le fait de traduire le sens, hein, traduire le sens des mots coraniques, devient lui aussi obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, je répète la règle. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ce par quoi l'obligation ne peut s'effectuer que par lui devient aussi obligatoire. La chose qui permet d'accomplir une obligation sans laquelle l'obligation ne peut être effectuée, eh bien cette chose-là devient elle aussi obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.